Si je n'avais pas été terrorisée par les 20 minutes, je voudrais montrer comment travaille le sociogramme mémoire, parce qu'il s'agit bien de ça dans l'œuvre de Patrick Modiano. Histoire-mémoire, mémoire-oubli, mémoire-amnésie, mémoire-hypermnésie, ruine du roman national, etc., etc. Mais ce serait trop long, et je vous renvoie à un livre que je dois écrire sur Modiano, donc certaines parties sont déjà faites et publiées, soit dans les cahiers de Lerne sur Modiano, soit dans la revue Europe, et qui aura pour titre « Il n'y a plus que les perroquets qui sont fidèles au passé ». Donc laissons cela, et je voudrais revenir sur un aspect, pour les 20 minutes qui me sont imparties, un aspect de cette œuvre, mais qui pose des problèmes, qui sont les nôtres aujourd'hui, autour du réalisme, autour de l'effet de réel au sens barthien, c'est-à-dire qui ruine plutôt le réalisme qu'autre chose, d'éléments que je vais développer. Les personnages, et le narrateur très souvent de ces romans, sont toujours en quête. Il s'agit toujours d'enquête, enquête d'eux-mêmes, lorsque amnésiques, ils ne savent plus qui ils sont, ou enquête d'autres qui ont disparu, ou ont ressurgi, ami de son père, cette figure si imposante, je vais y revenir de ses livres, personnage obscur, souvent anonyme, dont il faut retrouver la trace. C'est aussi vrai des personnages fictifs, presque tous, que d'un personnage non fictif de l'œuvre, Dora Bruder, de cette jeune adolescente juive qui a fait une fugue en décembre 1941 et dont les parents placent une petite annonce dans Paris Soir. Pour tous ces personnages, et en particulier les personnages fictifs, le narrateur finira par retrouver quelques traces qui ne feront jamais sens totalement. Or, pour le personnage réel, il n'arrivera pas à retrouver de vraies traces, sauf quand il fera appel à un historien, Serge Klarsfeld, et c'est par l'historien qu'il réussira à voir et l'état civil de Dora Bruder et celui de ses parents, etc. Donc tout ceci m'interpelle, puisqu'on parlait de l'intrication du romanesque ou du fictif et d'éléments qui sont tout à fait historiques. Comment un romancier se dépêtre-t-il de cette articulation en jouant précisément de l'apparence perpétuelle de la scie historique? Les romans développent en effet, c'est ce petit point simplement qui va m'arrêter aujourd'hui, toute une panoplie d'archives, agendas, carnets d'adresses, répertoires de téléphone, papiers d'état civil, comme les livrets de famille, c'est le titre d'un des romans, d'actes de naissance ou de mariage, de certificat de baptême, s'il y a lieu, de notes prises sur des papiers pliés en quatre, oubliés depuis longtemps dans un ouvrage, ou jetés sur des cahiers Clairefontaine, depuis longtemps cornés et non ouverts, des photos trouvées dans des boîtes à biscuits, de vieux journaux et magazines, avec leurs avis de recherche, leurs petites annonces, les photographies de stars du temps, toutes sortes de faits divers, des collections disparates achetées chez les bouquinistes, des brocantes, des marchés aux puces, des vieux plans de Paris, tout barbouillés, avec des itinéraires, des cartes Michelin usagées, des cartes de visite portant l'adresse de garages depuis longtemps démolis. Tout un ensemble d'indices, de bribes, de traces ténues dispersées qu'il faut savoir relier mais qui ne seront jamais véritablement tout à fait reliées. C'est ainsi que le narrateur de La rue des boutiques obscures, le roman qui a eu le prix Goncourt en 1978, décrit le bureau de Huté, son employeur. Derrière Huté, des rayonnages de bois sombre couvraient la moitié du mur. Y étaient rangés des bottins et des annuaires de toutes espèces et de ces 50 dernières années. Huteb avait souvent dit qu'ils étaient des outils de travail irremplaçables dont ils ne se séparaient jamais et que ces bottins et ces annuaires constituaient la plus précieuse et la plus émouvante bibliothèque qu'on put avoir, car sur leurs pages étaient répertoriés bien des êtres, des choses, des mondes disparus et dont eux seuls portaient témoignage. Et dans Quartier perdu, autre roman, un des protagonistes répète au narrateur « On trouve tout, tout ce qu'on cherche dans les annuaires, à condition de savoir les consulter. » Alors le narrateur, par exemple, de plus loin de l'oubli, étale sur sa table des papiers à la manière d'un jeu de cartes, quelques adresses, des noms, une vingtaine en tout et pour tout. Il en est le seul lien, mais il ne peut pas leur donner sens. Celui de l'horizon, Bosman, se sent assailli par des bribes de souvenirs sans lien les uns aux autres, mais ils ne pourront jamais constituer un dispositif qui permettrait à une petite Madeleine d'émerger, absolument pas. Et devant cette impossibilité, il décide de dresser des listes, de noter sur un carnet de moleskine noire les bribes de souvenirs qui lui viennent à l'esprit. C'est qu'il a l'ambition non seulement de trouver un sens, une cohérence à sa vie, mais de rendre compte de ce qu'elle aurait pu être en fonction de bifurcations possibles de sa route. Donc, ce n'est pas simplement retrouver les souvenirs, mais de retrouver des bifurcations et un sens potentiel qui lui a échappé. Le narrateur ou d'autres personnages sensibles à la fragilité de la mémoire et de l'engloutissement de tout dans l'oubli élaborent eux-mêmes des catalogues, des listes. C'est ça qui m'a intéressé, si vous voulez, des inventaires. Et c'est grâce à ces catalogues, ces listes, ces inventaires, pensent-ils qu'ils vont retrouver quelque chose de leur histoire. Alors, il y a des tas d'exemples. Il y a ce directeur d'un chenil qui rêve d'un fichier central où seraient répertoriés tous les chiens dès leur naissance, avec leurs photos, tous les témoignages écrits oraux se rapportant à ces chiens disparus. Son tourment à lui, c'était de penser à tous ces milliers de chiens morts dans l'anonymat total, sans qu'ils eussent laissé la moindre trace. Bon, on voit très bien remplacer les chiens par les hommes, mais on voit très bien cette obsession. Et tous ces personnages sont un petit peu des gens qui ont des obsessions de cet ordre. Il y a ceux qui, comme le narrateur de Chien de printemps, établissent le catalogage des multiples photos prises par le photographe Émule de Capa, photographie qui encombre une valise. Il veut les classer, mettre au dos des photos le moment, le lieu où elles ont été prises. Et s'il s'agit d'un portrait, le nom de la personne photographiée et le tout porté sur un registre établi en deux exemplaires. Travail de bénédictin, comme lui fait remarquer un personnage. Mais le narrateur affirme que s'il s'est engagé dans ce travail, c'est parce qu'il refusait que les gens et les choses disparaissent sans laisser de traces. Il y a ceux qui veulent fixer un moment de la vie de la jeunesse parisienne des années 60 et notent sur un grand cahier l'heure d'arrivée de tous ceux qui fréquentent le café Condé à l'Odéon. Ceux qu'on nomme les habitués, ainsi que leur adresse, et au moment où il prend ses notes. Et la date exacte. Et il avait demandé à des amis de faire la même chose pour d'autres cafés du quartier, cherchant ainsi à sauver tous ces quartiers de l'oubli, comme des papillons qui tournent autour d'une lampe. Il rêvait, disait-il, d'un immense registre où auraient été consignés les noms des clients de tous les cafés de Paris depuis 100 ans, avec mention de leurs arrivées et de leurs départs successifs. Mais aux yeux d'un personnage qui va hériter de ce cahier, cela paraît bien insuffisant encore. Lui aurait rêvé de notices biographiques en plus des mentions qui figuraient dans le cahier. Rêve d'exhaustivité qui n'est pas loin de ce qu'on peut relever dans les archives, les annuaires, les bottins, puisque Didier Blonde, autre écrivain, nous apprend qu'à la Bibliothèque nationale, on trouve la collection complète des Didot bottins, annuaires par année et par rue. Depuis 1838, ils sont répertoriés tous les habitants de toutes les rues de Paris. On ne peut pas encore aller fouiner pour voir, mais ça fait rêver. Pour essayer de faire sens de tous ces petits bouts de réel, soi-disant, puisqu'il s'agit d'éléments historiques qu'on peut répertorier, des temporalités enchevêtrées gouvernent ces narrations. Le moment où le roman s'écrit, à la fin des années 80 ou dans les années 90, ou même au début du XXIe siècle, les années 60, les 18-20 ans du narrateur, et bien sûr de l'auteur, ces temps où il va sortir de sa préhistoire pour devenir, comme il le dit, un écrivain français, à partir du premier roman, 1968, La Place de l'Étoile, la fameuse Place of the Star dont je parlais ce matin. Et une troisième période principielle, alors elle, celle de l'occupation, de la Seconde Guerre mondiale, celle où l'histoire de son père va venir au premier plan de ses obsessions, une période d'avant sa naissance, puisqu'il est né en 1945, mais qui est au cœur de ses récits. Ma mémoire précédait ma naissance. J'étais sûre, par exemple, d'avoir vécu dans le Paris de l'occupation, puisque je me souvenais de certains personnages de cette époque et de détails infimes et troublants de ceux qu'aucun livre d'histoire ne mentionne. Alors, il ne les mentionne, et petite phrase, mais fondamentale, parce que nous sommes pris encore quand il écrit dans le grand roman national de la Résistance, et que tous ces personnages sont troubles, comme son père, font des affaires avec la Gestapo française et la bande de la rue Lauriston, sont plus ou moins soit de vrais collabos, soit des collabos passifs, soit des gens qui jouent sur tous les plans, et dont on ne parle effectivement jamais au moment où on écrit. Et ces récits sont une façon aussi de parler d'eux. Dans ces récits, donc, qui passent perpétuellement d'une temporalité à une autre, une nappe de signifiants récurrents se répondent et s'interpénètrent, et là encore, ils font effet de réel plus que de transit de narration réaliste. Ils viennent un peu ruiner en réalité la narration, mais nous donnent le sentiment qu'on est totalement ancré dans le réel. Thème non propre, rue de Paris, images, numéros de téléphone aux indicateurs anciens, sous forme de lettres, passe pour Passy, O pour Trocadéro, ODE pour Odéon, AUT pour Auteuil, qui rythme vraiment ces numéros de téléphone à l'ancienne, qui rythme la narration. Signifiant, signifiant d'abord la figure du père, de ce père qui s'est construit, qu'il construit dans l'œuvre, Aldo Modiano ou Henri Lagroua, parce qu'il a toutes sortes de noms. Un père juif dont la famille venait de Salonique, dans l'Empire ottoman, et qui passa toute la guerre à vivre d'expédients, du marché noir, en rapport avec toutes sortes de gens louches, et en particulier cette fameuse bande de la rue Lauriston, ce qui, paradoxalement, mais véritablement, lui a sauvé la vie. Et de ce père qui l'emmène, enfin il a une scène primitive chez Modiano qui est l'arrestation, deux fois l'arrestation du père, je passe parce que ce serait trop long dans mon développement, mais le père est partout présent, sous un nom d'emprunt, avec cette tyrannie, puisqu'il en fait un pensionnaire, il veut absolument lui faire son service militaire et même le faire rentrer dans l'armée. Hein, tout ça. Il veut même, nous affirme Modiano, le faire passer sous le métro à la station Georges V en le poussant sur les rails. Enfin, il n'y arrive pas. Bon. Donc, un père qui symbolise à lui-même les années troubles qui sont à la base de son travail narratif de l'occupation. Mais ces traces, toutes ces traces qui nappent l'ensemble narratif ne suffisent pas, parce qu'elles ne feraient pas, comme l'évoquait Patrick Borus ce matin, elles ne feraient pas valeur. Le romancier ici émerge pleinement par les nouvelles traces qu'il invente. Il y a toutes ces traces, ce dispositif énorme de listes et de catalogage, mais il y a bien sûr d'autres traces que seul le romancier peut faire émerger d'ailleurs. C'est ainsi que le narrateur de Dora Bruder évoque le malaise qu'il a ressenti devant Premier rendez-vous, un film que Dora Bruder aurait pu voir à son époque, au moment de sa fugue, et où il est question d'une fugue. Ce malaise provient, nous dit-il, de la luminosité particulière du film, d'une sorte de voile qui semble recouvrir les images et accentue les contrastes. Et brusquement, il a une révélation. C'est le regard des spectateurs de l'époque qui imprègne la pellicule, où le temps de la projection, ils oubliaient leur malheur. Et tous ces regards, je cite, par une sorte de processus chimique, avaient modifié la substance même de la pellicule, la lumière, la voix des comédiens. Fin de citation. Je l'imite. C'est donc que les inconnus, les disparus, laissent des traces comme les quartiers perdus, mais plus encore, c'est le regard de leurs contemporains qui s'inscrit dans ces traces. Et ainsi, ces anciens numéros de téléphone, qui ne sont plus attribués, et d'où parviennent des voix, comme une circulation invisible, parallèle, comme des fantômes de voix, donc des voix du passé, qui s'éternisent à travers des circuits téléphoniques oubliés. Il y a aussi l'écho de ceux qui ont habité un même lieu autrefois. Le narrateur de la rue des boutiques obscures note « Je crois qu'on entend encore, dans les entrées d'immeubles, l'écho des pas de ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui depuis ont disparu. Quelque chose continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus faibles, mais que l'on capte si l'on est attentif. Au fond, je n'avais peut-être jamais été ce Pedro McEvoy, je n'étais rien, mais des ondes me traversaient, tantôt lointaines, tantôt plus fortes, et tous ces échos épars qui flottaient dans l'air se cristallisaient, et c'était moi. Plus insaisissable encore, les couloirs du temps. Il faut imaginer que l'on pourrait croiser des gens qu'on a connus il y a 40 ans, et on les croise et eux n'ont pas vieilli, 40 ans après, alors que la marque des ans a fait son travail sur notre visage et notre corps. On peut les rencontrer, mais rien ne se passera entre eux et vous. Ils ne nous reconnaîtront pas, car chacun est dans son corridor du temps, et ces temps ne peuvent se rencontrer car chacun vit dans un temps différent. Il se peut cependant qu'un miracle se produise. Dans l'horizon, le héros imagine qu'un jour, il retrouvera Margaret, car ils finiront par se retrouver dans le même corridor. Et alors, tout pourra recommencer. Il ne s'agit pas de figer le temps, de l'empailler, comme le Paris d'aujourd'hui, ou de le geler. Il n'y a que les perroquets pour être fidèles au passé. Cette pensée du narrateur de Accident nocturne nous indique qu'il ne s'agit en rien de reconstituer le passé perdu, ou même de le faire revenir. Le miracle de l'éternel retour, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de quelques moments où le temps s'arrête, se rembobine et touche à de l'intemporel. J'ai eu un moment l'illusion, citation, qu'au-delà du cimetière, je la retrouverais. Là-bas, et ce serait l'éternel retour. Le même geste qu'avant, pour prendre à la réception la clé de la chambre, le même escalier raide, la même porte blanche avec son numéro 11, la même attente, et puis les mêmes lèvres, le même parfum, et la même chevelure qui se dénoue en cascade. Fin de citation. Cet éternel retour va bien au-delà d'un simple déjà-vu, même si le déjà-vu joue un rôle important dans l'œuvre. Il est comme un temps immobilisé, une brèche, comme il y a les bribes, il y a les brèches. Les brèches où on retrouve tout intact, mais cette brèche n'a pas du tout la couleur du souvenir. Dans le discours de réception du prix Nobel, il parle de ces grands massifs romanesques du XIXe siècle qui provoquent en lui une certaine nostalgie. Il aurait certainement voulu écrire comme ça. À cette époque-là, dit-il, le temps s'écoulait d'une manière plus lente qu'aujourd'hui, et cette lenteur s'accordait au travail du romancier, car il pouvait mieux concentrer son énergie et son attention. Depuis, le temps s'est accéléré et avance par saccades, ce qui explique la différence entre ces grands massifs romanesques du passé aux architectures de cathédrales et les œuvres discontinues et morcelé d'aujourd'hui. Et il se demande ce que donnera, comment continuera l'aventure romanesque, quand s'y inscriront les réseaux sociaux, l'Internet, le smartphone, de façon créative au niveau de l'écriture. Il dit, il n'est pas contemporain ni de ces grandes machines architecturales, aux architectures de cathédrales, ni de cette discontinuité absolue. Mais, dit-il, j'appartiens à une génération intermédiaire. Et effectivement, dans une interrogation sur le réalisme aujourd'hui, on a affaire à une écriture du discontinu, du fragmentaire, de la bribe, mais qui est toujours prise dans une patte romanesque qui donne l'illusion du continu. Ce qui peut expliquer d'ailleurs, c'est un des aspects du succès de Modiano, et là je parle pas du tout du temps. D'Opel, je parle du succès commun, qui fait que aussi bien un cercle des cercles restreints quand tu ne le méprises pas, parce que ça c'est une grande donnée aussi institutionnelle parisienne, que c'est pas vraiment un écrivain, tout s'est arrêté à Duras, non. Mais que quand il n'est pas méprisé, qu'il plaît, il plaît à la fois au cercle restreint et au grand public, c'est-à-dire qu'on a à la fois cette écriture du suspens, du discontinu, cette fameuse petite musique dont on l'avait affublé en son temps pour le définir, et en même temps, du romanesque, il s'agit d'une histoire du romanesque policier d'ailleurs, car ça imite très souvent la structure du roman de détective ou du roman policier, ce qui quand même plaît à tout le monde, etc. Enfin, quand il évoque ce, à propos de ce discours du Nobel, attribué pour son art de la mémoire, non, et en particulier de la période de l'occupation, il parle de cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé, que le peu de traces qu'ont laissées sur terre des anonymes et des inconnus, elle est ainsi liée aussi, cette quête, à ma date de naissance, 1945. Mais que faire de ces bribes et comment leur donner sens? Et là, j'aurais voulu embrayer sur le rôle de la fiction modianesque. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs. Mais dans cette remise en question d'une certaine narration du passé en France, qui ont fait de lui, d'ailleurs pendant très longtemps, une espèce de romancier ou scénariste ambigu. Et je terminerai par là, je reprendrai ma propre expérience. Quand Lacombe Lucien, le film de Louis Malle, est sorti en 1974, j'étais une des première à voir le film, comme toujours, hein, grande cinéphile, je me suis précipitée et j'ai eu ce film en horreur. Je me souviens, à l'époque, nous étions très nombreux à trouver que c'était le symbole de la mode rétro, que c'était une horreur, que c'était une ambiguïté totale au niveau idéologique et j'étais, comme on dirait en France aujourd'hui, vent debout contre ce film. À propos d'un colloque Modiano à Lyon il y a quelques années, où j'étais invitée, dans le cadre de colloque, on nous a repassé Lacombe Lucien. Donc j'ai revu 40 ans après Lacombe Lucien. Et j'ai passé mon temps, qui est un fort bon film, j'ai passé mon temps à me dire, mais qu'est-ce qu'on avait donc à l'époque? Pourquoi est-ce que j'ai passé tellement de temps, et j'ai dû écrire 2-3 articles dans quelques petites revues intellectuelles du moment, qu'est-ce que nous avions donc? Pourquoi étions-nous si contre? Alors, je crois que les conjonctures historiques comptent énormément et que c'était la remise en question de cette France glorieuse, toute acquise à la résistance, avec quelques sombres personnages, mais qui avaient tous été liquidés, justement, à la libération. Et Modiano est, comme il le dit dans un de ses romans, comme une petite piqûre d'insecte. C'est-à-dire, il vient vous piquer. Et puis vous avez le sentiment, bon, comme ça, une piqûre de moustique, que c'est rien du tout. Ça chicote un peu, mais c'est rien du tout. Et puis peu à peu, cette piqûre de moustique devient insistance, un bouton arrive, grossit, finit par se remplir de pus, et vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je croyais que ce n'était qu'une petite piqûre. Et en fait, c'est une espèce d'alarme qui vous indique que la France à laquelle vous croyez n'est pas tout à fait celle qu'un romancier obsédé par la période de l'occupation peut construire et donner à voir. Alors, ce romancier donc, termine son discours de réception du prix Nobel avec le remerciement, puisqu'on a trouvé qu'il était fin romancier de la mémoire. Il dit « J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la mémoire est beaucoup moins sûre d'elle-même et qu'elle doit lutter sans cesse contre l'amnésie et contre l'oubli. » On pourrait ajouter aussi, elle doit lutter sans cesse aussi contre l'instrumentalisation perpétuelle du mémoriel et de la commémoration. Ce n'est pas tout à fait le problème de Modiano. Mais dans une vision générale des problèmes d'un sociogramme de la mémoire, ce serait très important à prendre en considération. Et nous dit-il, à cause de cette couche, de cette masse d'oubli qui recouvre tout, on ne parvient à capter que des petits fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque insaisissables. Tous les adjectifs ici sont extrêmement importants et définissent son œuvre. Mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. Merci.